Chapitre 27. Les ombres blanches. Ne craignons pas de dire la vérité. Ovid. J'assène un deuxième coup de clé en croix et Gabriel s'écroule dans la poussière, plié en deux, le souffle coupé. Vous êtes vraiment le roi des salopards! Il porte les mains à l'abdomen. Je continue à déverser ma colère. Tout ce que vous m'avez raconté sur votre fils, sur la mort de la sœur de votre femme, c'est dégueulasse d'inventer de tels mensonges! Il tente de se relever, croise les avant-bras et les met en opposition pour éviter un nouveau coup. C'est vrai, Alice. Cette partie de l'histoire est vraie, jure-t-il. Sauf que je n'étais pas flic, mais psychiatre bénévole dans une association qui aidait les prostituées. Je lâche la croix métallique et le laisse se remettre debout. Ma femme est vraiment partie à Londres avec notre fils, explique-t-il en reprenant son souffle. C'est pour me rapprocher de lui que j'ai quitté la clinique. Malgré cet aveu, je continue à fulminer. Cette mascarade vous a bien amusé, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que ça m'apporte, à moi? Je me jette sur lui, lui donne des coups de poing sur le torse. Je hurle. Qu'est-ce que ça m'apporte, hein? Il enserre mes poings dans ses grandes mains. Calmez-vous maintenant, ordonne-t-il fermement. Nous avons fait tout ça pour vous aider. Le vent se lève. Je frissonne. C'est vrai, obsédé par l'enquête, j'avais presque relégué la maladie au second plan. Je n'arrive pas à croire que je vais m'éteindre. Ce matin, j'ai l'esprit clair et affûté. Les vitres de la Shelby me renvoient une image flatteuse, celle d'une femme encore jeune et élancée, aux traits réguliers, aux cheveux qui flottent au vent. Pourtant, je connais à présent le caractère trompeur et éphémère de l'apparence. Je sais que des plaques séniles sont en train de figer mes neurones et d'encalminer mon cerveau. Je sais que le temps m'est compté. Vous devez accepter de subir la deuxième partie de l'opération, insiste Gabriel. Ça ne sert à rien, votre truc. C'est un gadget pour plumer les gogos. Tout le monde sait qu'il n'y a rien à faire contre l'Alzheimer. Il prend une voix plus douce. C'est vrai et faux à la fois. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a raconté sur cette opération. En revanche, je sais que notre clinique s'est spécialisée dans la stimulation électrique des circuits de la mémoire et que ce procédé donne d'excellents résultats. Je l'écoute. Il essaie de se montrer didactique. Grâce à de très fines électrodes, on envoie un courant continu de quelques volts dans plusieurs zones stratégiques du cerveau, le fornix et le cortex entorhinal. Cette stimulation va générer des micro-secousses qui vont avoir un effet sur l'hippocampe. On ne connaît pas encore complètement tous les mécanismes d'action, mais l'idée est d'améliorer l'activité des neurones. Mais ce traitement ne guérit pas la maladie. Chez beaucoup de malades, on constate une amélioration discrète mais significative de la mémoire épisodique et de la mémorisation spatiale. Discrète ? Génial. Alice, ce que je cherche à vous dire, c'est que nous avons encore trop peu de recul. C'est vrai. Ce n'est pas une science exacte. Chez certains patients traités, des souvenirs perdus se réveillent. Les symptômes régressent ou se stabilisent. Mais chez d'autres, rien ne se passe et ils continuent malheureusement à s'enfoncer dans la maladie. Vous voyez bien, ce que je vois, c'est que rien n'est écrit et que les symptômes peuvent s'accélérer et conduire à une mort foudroyante, comme ils peuvent stagner. Chez les personnes jeunes dont on a détecté la maladie précocement, il y a des probabilités non négligeables de la contenir. C'est votre cas, Alice. Je répète comme pour moi-même. Contenir la maladie. Freiner la progression de la maladie, c'est gagner du temps, martèle-t-il. La recherche fait des progrès chaque jour. Il y aura des avancées, c'est certain. Oui, dans 30 ans. Ça peut être 30 ans, comme ça peut être demain. Regardez ce qui s'est passé avec le sida. Au début des années 1980, être diagnostiqué séropositif équivalait à une condamnation à mort. Puis, il y a eu l'AZT et les trithérapies. Des gens vivent depuis 30 ans avec la maladie. Je baisse la tête et dis d'un ton las : Je n'en ai pas la force. C'est pour ça que j'ai paniqué après la première opération. Je voulais rentrer en France, voir mon père une dernière fois Il se rapproche de moi et plante ses yeux dans les miens. Et quoi? Vous mettre une balle dans la tête? Je le défie du regard. Quelque chose comme ça, oui. Je vous croyais plus courageuse. Qui êtes-vous pour me parler de courage? Il se rapproche encore. Nos fronts se touchent presque comme deux boxeurs avant le premier round. Dans votre malheur, vous ne vous rendez pas compte de votre chance. Vous avez un ami qui finance ce traitement et qui a fait jouer ses relations pour vous inscrire dans ce programme. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a une liste d'attente considérable pour bénéficier de ses soins. Eh bien, comme ça, je libère une place. Visiblement, vous ne la méritez pas, en effet. Au moment où je m'y attends le moins, je vois ses yeux briller. J'y lis de la colère, de la tristesse, de la révolte. Vous êtes jeune, vous êtes une battante. Vous êtes la femme la plus déterminée et la plus têtue que j'ai rencontrée dans ma vie. S'il y a quelqu'un qui peut toiser cette maladie, c'est bien vous. Vous pourriez être un exemple pour les autres malades et...
Je me fous d'être un exemple, Kane! Je ne gagnerai jamais ce combat. Arrêtez votre baratin maintenant!
Il s'insurge.
Donc vous rendez les armes. C'est tellement plus facile, en effet. Vous voulez en finir? Allez-y. Votre sac est toujours sur le siège et il y a encore votre arme à l'intérieur.
D'un pas décidé, Gabriel s'éloigne en direction de l'hôpital.
Il me provoque. Il m'exaspère. Je suis fatigué. Il ne sait pas qu'il ne faut pas m'entraîner sur ce terrain, que je marche depuis trop longtemps au bord du gouffre.
J'ouvre la portière de la Mustang et m'empare de la besace. Je défais les lanières. Le Glock est bien là, ainsi que le téléphone dont la batterie est presque à plat. Je mets le portable dans ma poche machinalement, puis je vérifie le chargeur du pistolet et le glisse dans ma ceinture. Le soleil commence à être haut dans le ciel. Je regarde au loin et cligne des yeux, aveuglé par les reflets argentés qui dansent sur le lac. Sans un coup d'œil à Gabriel, je m'éloigne de la voiture et m'avance sur l'embarcadère. La puissance tranquille du paysage dégage une impression de sérénité et d'harmonie. De près, l'eau est limpide, presque turquoise. Je finis par me retourner. Gabriel n'est plus qu'une silhouette dans l'allée, trop loin pour tenter quelque chose. Je m'empare du Glock en polymère et je respire profondément. Je suis dévasté, laminé, à bout de souffle, au terminus d'une chute sans fin qui a débuté bien des années plus tôt. Je ferme les yeux. Dans ma tête se détachent les fragments d'une histoire dont je connaissais déjà la fin. Au fond de moi, n'ai-je pas toujours eu la conviction que ma vie se terminerait ainsi? Seul, mais libre. Comme j'ai toujours essayé de vivre.